Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1951. L'homme révolté est un essai philosophique et historique dans lequel Albert Camus examine les formes prises par le refus humain de la souffrance, de la domination et de la mort. Le livre prolonge la réflexion sur l'absurde menée dans le mythe de Sisyphe, mais déplace la question vers la vie collective et politique. Camus ne cherche pas à célébrer toute insurrection. Il interroge au contraire le moment où une exigence de justice se transforme en permission de tuer. Son parcours traverse la révolte métaphysique, certaines figures de la littérature européenne, la Révolution française, les mouvements révolutionnaires modernes et les totalitarismes du XXe siècle. La thèse centrale est que la révolte authentique affirme simultanément une limite et une solidarité entre les êtres humains. En refusant une humiliation, le révolté reconnaît une dignité qui ne vaut pas pour lui seul. Cet essai vise donc à penser une action juste, sans absolutisme, capable de résister à la fois au nihilisme et à la terreur politique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la révolte comme refus qui affirme une dignité commune, Camus distingue la révolte du simple ressentiment ou de la violence impulsive. Le geste initial est un refus face à ce qui ne peut plus être accepté, mais ce refus contient une affirmation. Celui qui dit non à une humiliation indique aussi que quelque chose en lui mérite respect. Cette valeur ne demeure pas purement privée, car la souffrance reconnue chez soi permet de reconnaître celle des autres. De là vient la formule célèbre qui substitue un « nous » au seul « je ». Pour Camus, la révolte fait ainsi apparaître une communauté de conditions entre les humains. Elle ne repose pas d'abord sur un programme institutionnel ni sur une promesse historique. Elle naît de la perception immédiate qu'une limite a été franchie. Cette conception donne à la révolte une portée morale précise. Elle oblige à défendre la dignité même de ceux dont les intérêts ou les opinions diffèrent. Elle empêche aussi de réduire les personnes à des moyens au service d'une cause. Camus refuse donc une vision selon laquelle la liberté individuelle autoriserait tout. La liberté devient juste seulement si elle reconnaît la limite qui protège autrui. Cette articulation entre refus, valeurs communes et solidarité forme le socle éthique de tout le livre. Deuxièmement, le passage de l'absurde à une réponse active et solidaire. L'homme révolté reprend le problème posé par le mythe de Sisyphe. Si le monde ne fournit pas de sens définitif, et si la mort rend fragile toute ambition humaine, pourquoi continuer à agir? Camus écarte le suicide comme le saut vers une certitude transcendante. Dans le nouvel essai, il ajoute que la révolte constitue une réponse active à l'absurde. Elle ne résout pas le mystère de la condition humaine et ne promet pas une harmonie finale. Elle permet néanmoins de vivre sans consentir à ce qui dégrade l'homme. Cette réponse a une conséquence décisive. La lucidité devant l'absurde ne doit pas conduire à conclure que tout est permis. Au contraire, parce que nul sens absolu ne peut justifier le sacrifice des autres, chaque vie impose une retenue. Camus oppose ainsi une révolte fidèle à la mesure humaine aux doctrines qui prétendent connaître le sens total de l'histoire. La première accepte l'inachèvement et agit dans des limites reconnues. Les secondes risquent de légitimer des crimes présents au nom d'un avenir supposé. Le livre propose donc une philosophie de l'action sans garantie métaphysique. Elle préserve la responsabilité dans un monde où aucune autorité ultime ne vient dispenser les hommes de choisir. Troisièmement, la critique de la révolte métaphysique devenue négation totale, Camus nomme révolte métaphysique le refus dirigé contre la condition humaine elle-même, contre Dieu, le destin ou l'ordre du monde. Il étudie diverses expressions européennes de ce mouvement, notamment chez des écrivains et penseurs, qui contestent la création, le mal et la mortalité. Son analyse ne condamne pas tout défi lancé à une autorité sacrée ou à une fatalité. Elle montre plutôt un risque interne à ce défi. Lorsque le refus veut abolir toute limite et instaurer une innocence absolue, il peut basculer dans la négation de toute valeur. La révolte perd alors son point de départ, qui était la défense d'une dignité blessée. Le nihilisme apparaît lorsque rien ne semble plus mériter protection et que la destruction devient une fin en soi ou un instrument indifférent. Camus suit cette tension afin de critiquer les formes de pensée qui remplacent un absolu religieux par un absolu humain. Un homme ou un groupe peut se croire autorisé à refaire entièrement le monde et à juger toute existence au nom de son propre idéal. La leçon est que le refus de l'absurde ne doit pas se changer en refus de l'homme réel. Une révolte cohérente conserve la mémoire de la souffrance qui la provoque et se refuse à multiplier cette souffrance. Quatrièmement, révolution, histoire et dérive vers la justification du meurtre, une partie essentielle de l'essai examine la transformation de la révolte en révolution organisée. Camus analyse la Révolution française, puis les mouvements révolutionnaires modernes, afin de comprendre comment une demande de justice peut se convertir en système de terreur. Il ne traite pas ces épisodes comme de simples accidents produits par de mauvais dirigeants. Il cherche le mécanisme intellectuel qui rend le meurtre acceptable. Ce mécanisme surgit lorsqu'une doctrine attribue à l'histoire un sens nécessaire, et prétend connaître le terme final de son développement. Dans cette perspective, les victimes présentes sont excusées comme prix de la libération future. Camus conteste cette logique en soulignant que la fin annoncée demeure incertaine tandis que la mort infligée est irréversible. Il critique également le pouvoir qui se réclame du peuple tout en supprimant sa liberté concrète. La justice promise se renverse alors en domination administrative, policière ou concentrationnaire. Cette analyse vise notamment les totalitarismes du XXe siècle et les usages de la terreur révolutionnaire. Camus ne défend pas le maintien passif des injustices existantes. Il soutient qu'une politique de transformation doit rester jugée par ses moyens. Si elle détruit sans limite les personnes au nom de leur bonheur futur, elle trahit la révolte dont elle se réclame. En dernier lieu, la mesure comme principe de justice entre liberté et égalité. La notion de mesure donne à l'homme révolté sa réponse positive aux impasses du nihilisme et de l'absolutisme révolutionnaire. Chez Camus, la mesure ne signifie ni prudence confortable, ni renoncement devant l'injustice. Elle désigne une discipline morale qui reconnaît les limites de la condition humaine, la valeur de chaque vie et l'impossibilité de posséder une vérité totale. Elle demande de maintenir ensemble des exigences qui entrent souvent en conflit, surtout la liberté et la justice. Une liberté sans limite peut laisser prospérer l'oppression, tandis qu'une justice prétendument parfaite peut supprimer toute liberté au nom de l'égalité. La mesure refuse de sacrifier entièrement un terme à l'autre. Elle impose donc une action toujours révisable, consciente de ses effets et de ses bornes. Camus rattache cette orientation à une sensibilité méditerranéenne et grecque, entendue comme refus de la démesure plutôt que comme modèle politique à imiter littéralement. Cette référence sert à contester les religions séculières de l'histoire qui promettent la réconciliation finale. Le révolté ne dispose pas d'un repos définitif dans Dieu ou dans le progrès. Il demeure engagé dans une tension durable. Mais cette tension protège contre les solutions qui exigent de faire taire, exclure ou exterminer ceux qui empêchent l'accomplissement d'une idéale. En conclusion, l'homme révolté intéressera les lecteurs de philosophie morale et politique, les étudiants qui souhaitent comprendre une grande controverse intellectuelle de l'après-guerre, ainsi que toute personne cherchant à examiner les rapports entre justice, violence et pouvoir. Il demande une lecture attentive. Camus mobilise des références historiques, littéraires et philosophiques nombreuses et son cheminement ne se réduit pas à un manifeste politique. Le bénéfice intellectuel du livre tient précisément à cette ampleur. Il apprend à distinguer le refus légitime de l'injustice, la révolution comme projet de refonte sociale et la terreur qui prétend excuser ses victimes par un avenir idéal. Sa portée pratique réside moins dans un programme à appliquer que dans une exigence de jugement sur les moyens employés au nom des fins les plus nobles. Face aux discours qui promettent une solution totale, Camus rappelle que la dignité humaine impose des limites non négociables. Par rapport à bien des essais engagés de son époque, l'ouvrage se distingue par son refus de choisir entre passivité conservatrice et révolution sans frein. Il critique simultanément le nihilisme, le culte de l'histoire et les pouvoirs qui confondent émancipation et domination. Cette position de mesure, souvent inconfortable, donne au livre sa singularité durable. Il ne promet ni innocence politique ni certitude finale, mais défend une solidarité lucide capable de résister aux crimes sans renoncer à combattre l'injustice. Si vous souhaitez soutenir Albert Camus, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.